Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Alors, en ce qui concerne l'agriculture, Madame Carpentier va nous rejoindre, s'il vous plaît, Christelle. Venez, rejoignez-nous. Allez, vous montez sur scène. Ludovic Luissier, pour la CACG. Donc là aussi, on va avoir des choses importantes à vous présenter. Christelle Carpentier, où êtes-vous? Elle arrive. Pardon, j'étais tout à fait impatient. On va parler aussi de réutilisation de l'eau, avec espoir et aussi les limites de la réutilisation de l'eau, avec nos amis de Toulouse Métropole, Robert Medina, rejoignez-nous s'il vous plaît, Julie Ducrot également, et Dolores Montiel. Voilà, installez-vous. Merci à vous, Christelle, d'être avec nous. Et puis nous aurons après, donc, et là, pardonnez-nous, parce qu'il nous manque encore, alors Thierry Sio monte maintenant, mais là, à ce moment-là, il monte avec sa chaise. Ce qui doit être possible, parce que comme il y en a, Thierry, si vous voulez, monsieur le maire. Ouais, montez. Notre maire de Portet-sur-Garonne. On va voir comment on va infiltrer les eaux pluviales chez vous. Voilà, plutôt que de les faire partir un petit peu dans tous les sens. La mobilisation, donc, de tous sur la recherche des solutions innovantes. Ludovic Luissier, prenez donc le micro. Vous êtes le directeur science, innovation et méthode. Et là, on va parler avec vous d'un projet... pardon. Alors, je sais qu'on ne dit plus la compagnie des couteaux de Gascogne, etc. Bon. CACG, hein, c'est ça. Oui, vous aimez les acronymes. Moi, je les connais quand j'étais tout petit. Il y avait tout le nom entier. On va parler de ce projet TASCI, c'est-à-dire Transition agroécologique en système de culture irriguée innovant. Je reprends mon souffle. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Dans une ferme, donc, on est dans le Gers. On est à côté, dans la ferme de Mirandette. Et donc, qu'est-ce que l'on y fait? C'est quoi? On va dire que c'est carrément un petit laboratoire. Donc, qu'est-ce que l'on fait effectivement dans cette ferme? Racontez-nous l'état d'esprit de ce projet au départ.
Alors, en effet, ça fait 65 ans que la CACG existe et la ferme expérimentale, elle existe depuis à peu près la même époque et elle a accompagné la transformation, l'agriculture pendant toutes ces années. Et évidemment, aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la transition agricole vers des pratiques plus vertueuses, plus écosystémiques, mais toujours en continuant à produire de l'alimentation, comme on l'a dit ce matin. Donc c'est en effet
que l'affaire soit économiquement rentable.
Absolument.
Quand même.
Voilà. Et donc c'est un laboratoire à ciel ouvert. On est sur une ferme de 35 hectares environ. Et ce projet-là, c'est non seulement un projet technique, c'est-à-dire qu'on mène, y compris avec des chercheurs, donc des laboratoires d'INRAE, ici nos collègues de Toulouse de l'UMR Agir, mais qu'on mène aussi avec des agriculteurs qui sont partenaires de ce projet-là. Et c'est très important pour nous d'associer les agriculteurs dans ce projet de la transition parce que, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un sujet qui est non seulement technique, mais c'est un sujet qui est social également. Donc on y mène des travaux de transition vers ce qu'on appelle donc l'agriculture de conservation des sols. Donc c'est une composante de l'agroécologie. Je pense qu'on pourrait débattre longtemps de ce qu'est l'agroécologie. Mais donc ce qu'on y fait là-bas, c'est de tester des systèmes. Et je vais revenir sur le mot système aussi tout à l'heure, qui à la fois pratiquent la rotation des cultures, pratiquent le couvert permanent des sols, et évite autant que possible de travailler le sol. Donc avec des objectifs écosystémiques très, très importants, hein, c'est capter l'azote atmosphérique, par exemple, avec les couverts, faire travailler le sol, retrouver un sol vivant grâce à ces couverts, grâce à l'enfouissement de ces couverts qui vont permettre de réenrichir les sols en matière organique. La rotation des cultures, ça permet aussi de réduire le recours aux produits phytosanitaires classiques, parce qu'il y a une concurrence naturelle qui se met en place. Et puis, le fait de capter cet azote atmosphérique, ce qu'on espère aussi, c'est avoir un recours plus faible aux engrais minéraux. Et le dernier sujet, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui de la ressource en eau. Une des hypothèses, c'est de considérer que ces sols réenrichis en matière organique auront une résilience par rapport à la capacité à retenir l'eau plus importante et qu'on pourra du coup réussir à ces grandes cultures qui sans doute resteront encore un peu nécessaires dans l'avenir, en utilisant une ressource en eau moins abondantes à ces périodes de l'été.
Alors, d'autant plus que vous êtes quand même donc, du côté de Massaube, ça veut dire qu'effectivement on est dans ce département du Gers, ça veut dire qu'il y a un cordon ombilical de 27 km qui s'appelle le canal de la Neste, voilà, donc qui irrigue une grande partie du Gers, c'est-à-dire que si nos amis de Hoche peuvent mettre de l'eau dans leur pastis, c'est grâce effectivement à l'eau des Hautes-Pyrénées et du canal de la Neste. Bon, très bien. Mais et qui irrigue aussi un peu plus que ce secteur-là, mais enfin, en gros, effectivement, alors comment on fait donc aussi avec ça, donc avec non pas avec le canal de la Neste, bien sûr, mais comment on fait en se disant, voilà, on essaie quand même de limiter, c'est bien ça le but, de limiter la consommation d'eau aussi.
Donc, oui, absolument. Donc,
et de ne pas déglinguer les sols, au contraire, de les rendre le plus vivants possible.
Encore une fois, l'hypothèse, c'est bien de considérer que des sols plus vivants vont être capables de mieux retenir l'eau et du coup d'avoir des plantes qui vont pouvoir se développer avec un petit peu moins d'irrigation. Donc, ça fait partie des tests qu'on réalise, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire les doses d'irrigation et de vérifier si les systèmes se comportent toujours aussi bien. Et je reviens donc sur ce sujet de système, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir une approche de l'exploitation dans son intégralité. Qui va produire de la valeur économique, qui va produire de la valeur écosystémique et qui va produire aussi de la valeur sociale. C'est-à-dire qu'on a des familles qui sont exploitantes et qui doivent faire vivre la famille, tout simplement. Et donc, le système, ça veut dire qu'on va regarder la performance de ces exploitations, non seulement à l'aune de leur capacité à produire la valeur économique, mais aussi sur tous les aspects biodiversité, sur tous les aspects organisation du travail, production de gaz à effet de serre, consommation de produits chimiques, etc., etc.
C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas le glyphosate, mais en tout cas, on le limite fortement. On n'est pas une fois de plus dans l'opposition les gentils bio, les méchants conventionnels. Non, sinon on s'en sort pas. Même si le glyphosate c'est pas exactement le super truc, mais malgré tout, on va vous dire que ça n'a pas été remplacé, donc ça fonctionne encore. Donc il y a tout ça qui est derrière. Et donc vous avez maintenant combien d'années au compteur et qu'est-ce que vous pouvez donc constater? Parce que je sais qu'il y a eu une cinquième année qui a été quand même assez compliquée.
Oui, on a commencé en 2019 sur la ferme expérimentale et les agriculteurs partenaires nous ont rejoints à partir de 2021. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il faut du temps pour réussir une transition comme celle-là. On n'a pas fini, nous. Et on a encore eu, comme tu le disais, un accident en 2023 où la culture de blé a vraiment raté. Ça a été la cata. On ne sait pas très bien se l'expliquer. Il y a eu un phénomène de ravageurs probablement qui a pénalisé la culture. Et d'une manière générale, on se rend compte que les rendements sur ces cultures de semi-direct sont un peu moins bons que ce qu'on peut obtenir même sur des pratiques en travail simplifié du sol ou en labour. Parce qu'on essaie de comparer quand même les systèmes entre eux pour pouvoir avoir une vraie crédibilité scientifique dans les résultats qu'on apporte. Et donc il faut du temps et tout ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que ce qu'on veut mettre en évidence aussi, c'est les difficultés qui peuvent se poser en travers de la route de la transition. Parce que encore une fois, il y a un volet partenarial avec les agriculteurs. Eux nous disent on veut bien y aller, mais c'est risqué cette affaire. C'est risqué pourquoi ? C'est risqué parce qu'il va falloir faire des nouveaux investissements. Quand on est sur ce genre de pratiques agricoles, on a besoin d'outils très très sophistiqués. Donc là, on a un outil qui permet de détruire mécaniquement les couverts intermédiaires. On a aussi des semoirs dans lesquels il a fallu investir, qui coûtent très très cher. Et chaque agriculteur pris individuellement a des réticences à se lancer dans de tels investissements s'il n'a pas des garanties de réussir son opération économique. Donc il y a l'investissement, il y a la compétence, c'est-à-dire que réussir cette transition, tout à l'heure on entendait un agriculteur qui témoignait du passage au bio, mais passer à ce genre d'agriculture, c'est aussi un travail de plusieurs années pour comprendre comment fonctionne son exploitation, comment réagissent ses sols, comment on va associer les couverts entre eux, comment on va réussir cette rotation des cultures, comment on va trouver en aval les débouchés qui vont permettre dans cette rotation de valoriser ces cultures, ce qui reste le nerf de la guerre, aujourd'hui en tout cas. Et puis, de temps en temps, ça ne marche pas. Donc, s'il y a un risque économique, comment on fait pour accompagner un agriculteur dans, comme ça a pu être le cas en bio, compenser au moins en partie, et éviter que...
Quelle est leur corde de rappel, quoi, en gros, c'est
absolument. Ça. Donc, et donc, les agriculteurs partenaires, eux, ils ont dit, bon, on veut bien venir, mais il faut nous aider. Donc, c'est nous qui allons faire une partie du travail chez eux. Et puis, surtout, ils le font sur des petits bouts de leur exploitation. Ils se disent, on ne va pas prendre le risque sur toute l'exploitation pour commencer. Donc, ils ont besoin de goûter aussi, de toucher pour voir. Et bon, petit à petit, ils voient ce qui se passe dans notre ferme La Mirandette, ils expérimentent eux-mêmes, et puis l'idée, c'est que ça fasse tache d'huile, tout ça, et que d'autres se disent, bah oui, il y a une voie possible, un chemin possible, qui est peut-être pas le seul, mais qui permet d'avoir des objectifs qui sont à la fois économiques et environnementaux, et voilà, et se dire que demain, on pourra faire face à tout ce qu'on a entendu ce matin, et tous ces à-coups, tous ces aléas. Mais l'eau dans l'affaire reste, je pense, un allié pour réduire les risques. Donc, tu parlais de ce cordon ombilical. Donc, il y a des cultures qui sont traditionnellement irriguées. On parlait du maïs et des cultures d'été en général. On se rend compte aussi que ces fameux couverts végétaux qu'on va mettre parfois après le blé qu'on récolte au mois de juillet, bah, s'il faut qu'ils se développent jusqu'au prochain semis à l'automne, dans une région où il fait chaud, où il fait sec, où il n'y a pas beaucoup de pluie, bah, peut-être qu'il faudra avoir un petit peu d'aide et d'irrigation aussi pour ces couverts-là, pour produire justement l'effet écosystémique qu'on recherche. Donc on est sur quelque chose qui est d'une certaine manière un peu paradoxal, qui fait la complexité, peut-être aussi le sel de l'exercice.
Ça s'appelle la vie, hein, voilà. C'est la complexité.
Et donc, c'est de se dire, bah, si on veut pouvoir capter l'azote, si on veut pouvoir enrichir en matière organique, bah, peut-être qu'il faudra mettre un petit coup de pouce à ces plantes-là, bien de sûr. Temps en temps, pas tout le temps, pour qu'elles produisent ce qu'elles ont à produire.
Non, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de fabriquer de la connaissance. Vous êtes extrêmement modeste. D'ailleurs, les mots, ça c'était cher à Pierre Rabhi, qui nous rappelait que les mots humus, humidité et humilité, ça avait effectivement la même racine. Bon, je referme la parenthèse, mais c'était ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous m'aviez dit aussi au téléphone, en fait, on essaie de créer une coalition des pour. Et donc là, on revient aussi sur la notion de système.
Oui, oui, j'aime beaucoup reprendre ce terme-là parce que à la CACG, on a été confronté, beaucoup de gens le savent, à des voilà, des conflits d'usage autour de l'eau.
Pas, donc...
Et en fait, ce que j'avais perçu, c'est que autour de ces projets d'aménagement, autour de ces projets sur l'eau, assez facilement, on arrive à générer des oppositions. Alors, on sait même pas volontaire, hein, ça c'est un peu spontané. Et ces oppositions, elles s'agglomèrent au point de générer des controverses très très fortes.
Des abcès là.
Et donc, la réflexion qu'on a, c'est se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Et c'était un peu évoqué aussi ce matin, à travers le dialogue, à travers le partage. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les acteurs d'un territoire, ayant compris les intérêts des uns et des autres, les contraintes des uns et des autres, soient capables de co-construire une solution qui, certes, n'est pas optimale du point de vue de chaque acteur, mais qui, collectivement, permet d'envisager un avenir en commun.
Alors, pourquoi on fait ça à la CACG ? Parce qu'évidemment, on vous connaît au départ, on va dire, comme aménageur, donc on le sait. Mais maintenant, cet aspect-là, vous le prenez aussi quand même, vous le prenez en compte.
En réalité, les aménagements sur lesquels on a travaillé depuis 65 ans sont des aménagements qui rendent déjà tout un tas de services, qui ne sont pas que des aménagements pour l'agriculture. Vous parlez de ce lac du Gabas... Avec Claude Miqueux, on a pu aménager, réaliser. C'est un lac qui produit tout un tas de services. Il réalimente des cours d'eau qui ne seraient pas en eau aussi souvent s'il n'y avait pas cette réalimentation. C'est-à-dire qu'une très grande partie du volume d'eau qui est dans ce lac ne sert qu'à réalimenter le Gabas en aval et même à remonter un peu de l'eau un peu plus haut sur l'Adour pour alimenter ce débit d'Adour. Il sert évidemment à compenser des prélèvements agricoles et à produire la valeur économique sur le territoire. C'est un lieu désormais approprié par la population locale puisqu'autour de ce lac, il y a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de promeneurs. Chaque week-end, chaque jour, il y a une base nautique, il y a un théâtre de verdure, c'est un espace pour les canadairs quand il y a des problèmes d'incendie. Ouais. Donc, c'est déjà un espace multifonctionnel. Ouais, voilà. Et ça existe dans quasi tous les ouvrages qu'on a créés à la CACG depuis 65 ans.
Bon, on va donner la parole aussi aux agriculteurs presque directement, mais si, parce que Christelle est aussi agricultrice avec son mari. Christelle Carpentier, je vous en prie, prenez ce micro. De la vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, donc en charge de l'eau, de l'environnement et des grandes cultures, fameux du Volvestre. Et oui, donc pas très loin, donc au sud, donc là de Toulouse. Et là, vous allez nous parler de Klim Valley. Alors ça, c'est porté donc par Arvalis. On a mis deux L, E, Y, parce que ça le fait bien quand même, Klim Valley. Dites-nous ce que vous faites et donc quel travail vous effectuez, ce que vous chapeautez. Est-ce que vous attendez de cela?
Alors, nous, ben, ça rejoint un peu les travaux présentés par la CACG, c'est-à-dire que aujourd'hui, alors déjà, on a commencé par bagage, on a fait des tests. Enfin, ça a été porté par la Chambre régionale d'Occitanie, où en fait, on a testé l'augmentation de la réserve utile des sols, c'est-à-dire la capacité du sol à retenir l'eau, en fonction du taux de matière organique. Et on a vu qu'en fonction des sols, si je suis en alluvion, en boulbène, en sol argileux, ben en fait, ça permet de retenir entre 5 et 15 mm. Mais ça dépend des sols. Il y a des sols qui retiennent que 5 mm. Donc après, à partir de là, on se rend bien compte que l'accès à l'eau devient un souci récurrent sur nos territoires. C'est-à-dire que là, en ce moment, on en a trop. Et puis, on regarde là, il prévoyait de la pluie aujourd'hui. Finalement, c'est reporté à dimanche. Donc, on sait qu'on va rentrer dans des périodes où il y aura moins d'eau. Et du coup, il faut impérativement qu'on arrive, nous, à trouver des solutions pour garder une certaine productivité sur nos exploitations. Et donc, Klim Valley, en fait, c'est un test là-dessus, c'est-à-dire sur l'ensemble des rotations de culture, sur... voir comment je peux réduire mon eau ou rendre mon irrigation plus efficiente sans qu'il y ait perte économique pour les exploitations agricoles. Nous, on tient impérativement à ça puisqu'on est quand même un des plus bas revenus de France en Haute-Garonne et on ne peut pas se permettre de réduire un peu plus le revenu de nos agriculteurs.
Travail sur des recherches variétales aussi, j'imagine.
Oui, mais après, le problème des recherches variétales, c'est que...
Qu'est-ce qu'on vend derrière?
Non, c'est pas ça. C'est qu'on a des soucis où, par exemple, je me rappelle là d'une variété de tournesol qui était testée, qui était prête à être mise sur le marché. Puis on a des faucheurs qui sont arrivés. Ils ont anéanti 15 ans de recherche, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas... Voilà.
Ça s'est fait. Oui, non, mais c'est normal. C'est normal. Vous inquiétez pas. Mais attendez, vous laissez Christelle effectivement partir. Moi, j'ai connu ces combats par cœur. Non, voilà. Je savais pas en vous lançant là-dessus que ça allait arriver là. Mais ok. Non, mais j'entends bien effectivement. Donc il vous a manqué aussi. Vous le dites et c'est entendable. Il vous a manqué effectivement des résultats. Donc par rapport à ça. Alors le manque d'eau, oui. Mais l'augmentation des températures, ça aussi, vous travaillez dessus.
Ben nous, en fait, le principal problème que nous avons, c'est l'élévation des températures, puisque il faut savoir que les plantes se mettent, dès que ça excède 30 degrés, elles se mettent en repos végétatif. Et du coup, elles ferment leur stomate, donc elles ne font plus la photosynthèse. Et ça fait qu'en fait, elles brûlent au soleil. C'est pour ça que... quand il y a eu des tests effectués sur des maïs, rien qu'avec du goutte à goutte, on a trouvé des limites parce qu'en fait, comme il n'y avait pas de brumatisation, la température pouvait s'élever haut, même si l'humidité du sol était correcte. Et au final, ça a entraîné des pertes de productivité. J'ai investi dans des sondes capacitives chez moi et en fait, je me suis rendu compte que dans mon maïs irrigué, même quand on a eu les 40-42 degrés, les températures, elles excèdent pas 28 degrés. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de microclimat qui se crée dedans et qui fait qu'au final, la plante continue à évapotranspirer. Alors, évapotranspirer, c'est pas elle a chaud, elle transpire. Hein. En fait, c'est le fonctionnement normal de la plante qui lui permet de capter le CO2 et de la transformer en dioxygène, sucre, etc. via le soleil, quoi. Et en fait, le fonctionnement est optimum.
Donc, est-ce que vous incitez là aussi donc, au couvert végétal? J'imagine que oui.
Nous, en tout cas, on essaie d'y travailler. Et là, actuellement, on réfléchit à comment on peut faire pour implanter quelque chose avant de moissonner le blé ou le colza, par exemple, pour que quand je vais moissonner, ensuite, j'ai un couvert végétal dessous. Mais c'est pareil, c'est des recherches. On a Sarah Singla qui est intervenue là il y a quelque temps quand on a fait un colloque à Caraman et elle nous expliquait qu'en fait, il y a plusieurs conditions à remplir. Et la condition la plus difficile à obtenir ici, c'est la précipitation dans les 5 jours.
D'accord.
Parce qu'au mois de juin, il ne pleut pas forcément. Quoi. Voilà.
Quels sont maintenant, je dirais, pour terminer, vos craintes et vos espoirs quand même dans tout cela? On voit bien qu'on est quand même tous plus ou moins le dos au mur. On l'a dit ce matin, donc on rentre dans une période vraiment inconnue. L'être humain est devenu une force géologique sur la planète. Donc on a, je le disais, on a cassé le thermomètre d'un côté et quand même le cycle de l'eau aussi de l'autre. Mais malgré tout, quelles sont, voilà. Donc les craintes, on les voit bien maintenant, mais quels sont quand même vos petits bouts d'espoir que vous pouvez mettre en avant, sinon vous ne seriez pas ici. Donc.
Moi, je me dis que déjà, c'est tous ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions, qu'il faut arrêter de se focaliser sur l'agriculture irriguée en disant que c'est parce qu'il y a de l'agriculture irriguée qu'on n'a plus suffisamment d'eau. Déjà, le Code de l'environnement spécifie bien qu'on est censé partager la ressource et pas assassiner Paul pour que Pierre puisse avoir de l'eau au robinet. Donc ça, c'est la première chose qui me tient à cœur, en tout cas. L'autre chose, c'est qu'il faut impérativement que tout le monde travaille pour réduire la température. Moi, j'ai fait un test il y a quelque temps. Là, j'ai mangé en centre-ville au mois de juillet de Toulouse. Il faisait 33 degrés à 1h du matin. Et quand je suis arrivée chez moi, à côté de mon maïs irrigué, il faisait 20. Donc le problème essentiel, en fait, c'est le fait qu'on ait des zones et des structures qui accumulent énormément de chaleur, qui ne se refroidit pas la journée. Et je dis pas il faut qu'on travaille, les agriculteurs, on est en train. Hein, je vois mon fils, là, il est en train de passer son BPRA. Et il est hyper sensibilisé à ça. Et tous les jeunes de sa génération sont sensibilisés. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble et sur tous les milieux. On ne peut pas demander uniquement à l'agriculture de faire des efforts et de changer son comportement. Je pense qu'il faut que chacun, à son niveau, en fasse quelque chose.
Alors, ça a été aussi bien dit, aussi sur la violence des chocs par Sébastien Vincini, ce matin. Donc, du jour au lendemain, si on ferme un robinet, quel que soit le mode d'agriculture que l'on pratique, ça devient effectivement extrêmement dur. Dans un registre tout à fait différent et totalement anecdotique, je grimpais, j'étais dans la vallée de Saint-Lary, donc la vallée d'Or. La vallée d'Or, comme vous le savez, c'est les vents, donc c'est ça. En Occitan, donc c'est ça, donc la vallée des vents. J'étais à 18h15. Au sommet du col d'Aspin, donc à vélo, 1489 mètres d'altitude, 86 peut-être, il y a 2 jours, 19 degrés. 19 degrés. Bon, donc au mois de mars, c'était. Donc voilà, ça recoupe de toute façon ce que nous voyons les uns les autres. Je pourrais vous lancer encore sur d'autres choses, mais alors, est-ce que, a priori, vous auriez rien contre d'un petit peu d'eau réutilisée, éventuellement, de réutilisation ou...
Alors,
j'essaie de faire la liaison là.
Je prends des risques. En fait, moi, j'ai rien contre la réutilisation de l'eau. Moi, chez moi, à titre personnel, en tout cas, mon eau de vaisselle, je la fais jamais partir dans ma fosse septique. Je m'en sers pour arroser mes plantes, tout ça.
On pourrait presque vivre ensemble. Donc.
Non, mais bon. Après, c'est moi en tant que citoyen qui fait ça. Personne ne m'y contraint. Je récupère l'eau de ma douche avant que ça chauffe. Enfin bon, des petits gestes, quoi. Je veux dire, moi, ce qui m'inquiète dans la réutilisation des eaux usées, c'est les résidus qu'il peut y avoir dedans. Parce qu'aujourd'hui, je travaille sur mes champs pour essayer d'augmenter la vie du sol, hein, c'est-à-dire mettre en place un maximum de petites bactéries qui pourraient me rendre service. Psychologiquement, ça me dérange d'aller y mettre des antibiotiques ou du chlore dessus, vous voyez. Indirectement, même si c'est des quantités infimes, c'est une des questions qui m'interroge et qui fait que je serai un peu réfractaire parce que je veux être sûre de la qualité. Et puis, on a vu avec le Covid il n'y a pas si longtemps qu'il fallait hygiéniser les boues parce qu'on retrouvait des traces du virus. Donc, ça veut dire que si demain, je mets de l'eau qui est contaminée parce qu'on a une épidémie quelconque et qu'on me dit, il faut que tu détruises ta récolte, qui m'indemnise parce que moi, j'aurais travaillé quand même. Et comment ça fonctionne? Enfin, voilà, il y a tout ce système, en fait, assurantiel, de garantie... Parce que bon, Moi, je fais du maïs, mais je pense aussi à mes collègues qui sont maraîchers ou d'autres. Et il faut impérativement que tout soit super bien sécurisé. On ne peut pas prendre des risques avec l'aspect sanitaire.
Et ça nous fait une très, très bonne liaison là-dessus. Alors là, je vous rassure, parce qu'en fait, l'eau dont on va parler de Toulouse n'ira pas directement à l'agriculture. Aujourd'hui, la réutilisation des eaux, alors on dit reuse, ça c'est très bien dans le domaine de l'entreprise. On dit la réut, sinon d'une manière générale. Bon, on va dire réutilisation des eaux. Aujourd'hui, c'est 1%, si vous voulez, de réutilisation en France. Dans d'autres pays, ça peut être 50%, 60%. Mais une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'on est en retard. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a eu de l'eau qui était extrêmement abondante. Donc, on ne se posait pas tellement la question. Tout allait bien. Ce n'était pas la peine non plus de réutiliser. Et donc, on va en parler avec nos trois intervenants, puisque donc, nous allons partir donc, du côté de Toulouse Métropole. C'est-à-dire donc chez vous. Hein, ça se passe juste à côté avec vous, Robert Medina. Vous êtes le vice-président de Toulouse Métropole, en charge de l'eau et de l'assainissement. Alors, dites-nous, effectivement, on va dire d'abord le projet politique. Et après, donc, on verra ensuite avec Julie, avec Dolores, donc, comment on va décliner donc, les différentes applications. Ça va être intéressant aussi, parce que là, nous avons une biologiste, donc ça va être bien. Voilà, je vous en prie. Donc, l'état d'esprit, donc, qu'est-ce que c'est, puisqu'on se lance dans cette réutilisation?
Alors, comme disait Maziza ce matin, c'est d'être autour de la table. Nous avons chacun de nous une responsabilité sur la sobriété, sur cette eau tellement précieuse. À Toulouse Métropole, voilà des années que nous travaillons justement sur cette sobriété pour prélever moins d'eau sur la Garonne, pour donc évidemment réparer les fuites. Hein. Nous sommes une des métropoles qui a le moins de fuites, puisqu'on a moins de 12% de fuites sur notre métropole.
C'est un très beau score national.
Hein. C'est un très bon score, puisque sur l'Occitanie, je crois que c'est 25%. Nous travaillons sur... Et en plus, Toulouse Métropole, je crois qu'en préalable, il faut dire que Toulouse Métropole prélève 2 mètres cubes secondes d'eau dans la Garonne, mais en rejette 1,50 mètres cubes secondes dans la Garonne. Donc, et la Garonne en a besoin d'eau usée traitée. Voilà. Et ça, c'est tout le long de la Garonne, hein, toutes les villes qui y sont. Donc, je veux dire que l'eau qui est prélevée, où qu'elle soit, c'est aussi de l'eau de station d'épuration en partie. Voilà. Donc, c'est pour ça, pour parler de la réut. Donc, évidemment, nous, avant de parler de la réut, nous avons mis plusieurs choses en place. Et par exemple, un centre d'hypervision qui s'appelle Comet, qui surveille 1600 capteurs sur Toulouse, qui écoute les fuites. Et on est capable d'intervenir sur ces fuites immédiatement. Et on repère les fuites à 1 mètre près, ce qui est très important. Donc, ce centre Comet a aussi la possibilité de gérer la pression de l'eau. Ça veut dire que pendant la nuit, on a la possibilité de baisser la pression pour, évidemment, gaspiller moins d'eau aussi, s'il y a des fuites. Il y a plusieurs éléments que nous gérons aussi dans ce sens. Là, on est en train de terminer de mettre en place des compteurs téléconnectés. Alors ça, c'est d'une importance capitale. Un compteur téléconnecté vous permet, par l'application sur un smartphone, de suivre votre dépense d'eau tous les jours et votre consommation d'eau tous les jours. Ça veut dire que s'il y a une fuite sur votre réseau, vous ne vous en rendrez pas compte quand vous allez recevoir votre facture, mais chaque jour. Et donc, évidemment, vous intervenez immédiatement. Il y a tout un tas de travail qui est fait comme ça et d'actions qui sont menées pour aller vers plus de sobriété. Et évidemment, on a mis en place en 2020, Julie vous en parlera un peu plus techniquement, une unité de traitement des eaux usées, une réutilisation des eaux usées, avec une action et une seule action. Le but de cette réut, c'est effectivement de développer les actions possibles. La seule autorisation que nous ayons eue à ce moment-là, c'est de pouvoir arroser le golfe Garonne avec cette eau usée traitée. Aujourd'hui, on répond à un projet qui s'appelle Valréu et qui propose et qui attend les autorisations. Je crois que le secrétaire général de la préfecture est là, qui attend les autorisations pour pouvoir utiliser cette eau, pour pouvoir arroser, par exemple, les pelouses du Stade Toulousain. Ou nettoyer aussi les rames de la troisième ligne de métro dont le garage arrivera juste à côté de la station d'épuration. Faire une station sur laquelle les camions hydrocureurs pourront charger cette eau pour pouvoir hydrocurer, pour pouvoir aussi nettoyer les rues, pourquoi pas. Mais tout ça, ça nécessite des autorisations. Et effectivement, si la réutilisation des eaux usées a pris du retard aussi, c'est parce qu'il y a une réglementation qui était normale pour ne pas réutiliser cette eau usée.
Ce télescope, l'ARS, donc sur la santé, voilà, on est sur différents champs. Hein, donc.
Voilà. Donc, notre volonté à nous, et je vous ai dit qu'on n'utilisait que moins de 1% du débit d'étiage l'été, puisque le débit d'étiage est en moyenne 50 mètres cubes seconde, et donc on utilise moins de 0,50 mètres cubes seconde pour alimenter Toulouse Métropole.
Vous avez dealé avec le SMEAG et Jean-Michel Favre.
Oui, on a dealé, oui. Mais l'action que nous menons à Toulouse Métropole, elle va aussi dans le sens des agriculteurs. Encore une fois, je reviens au début de mon propos. Le but est de faire chacun quelque chose. Et le but est de développer chacun quelque chose et d'aller vers une action qui pourra effectivement aider l'agriculture et aller vers plus de sobriété.
Bon, ça, on va dire que c'est un temps plus lointain. Alors, bien évidemment, voilà. Vous avez des réutilisations qui n'ont strictement aucun sens. On a commencé à en parler un tout petit peu ce matin. Lorsque vous êtes... moi, j'avais animé les Assises de l'eau des Alpes de Haute-Provence. Donc, contexte qui n'a strictement rien à voir, même si il y a 600 000 mètres cubes du barrage de Castillon, barrage de Sainte-Croix, pardon, 400 000 sur le barrage de Castillon, etc. Quand vous demandez aux agriculteurs irrigants de faire moins 25% d'irrigation, ça rigole pas une seconde. Et donc là, il est évident qu'il n'y a pas de réutilisation. C'est-à-dire que l'eau des stations d'épuration sert simplement à nourrir la rivière. Point. C'est tout. Sinon, il y aurait pas d'eau. Donc ce qu'on est en train de dire n'est absolument pas valable partout. Lorsque vous êtes en bord de mer, ce n'est pas tellement un problème. Parce qu'évidemment, l'eau, OK, vous pouvez la réutiliser. Mais d'autres coins en montagne, on a besoin donc, de cette eau sans pouvoir donc, la réutiliser. Je vous en prie. Après, on passe le micro à Julie.
Oui, c'est très important ce que vous dites justement. Parce que la chance de Toulouse Métropole et de toutes les communes et collectivités qui habitent l'Andre de la Garonne, c'est que nous sommes alimentés par un fleuve. Beaucoup des communes côtières sont alimentées par des nappes phréatiques. Nous, l'eau qu'on récupère dans la Garonne, on la rejette dans la Garonne. Alors que les communes côtières qui récupèrent l'eau dans une nappe phréatique la rejettent à la mer. L'intérêt de la réutilisation des eaux usées pour ces communes est beaucoup plus important que ce qu'il peut être pour Toulouse Métropole. On est d'accord. Il y a un projet, par exemple, qui est un projet qui s'appelle le projet Jourdain, qui est en Vendée, où l'eau récupérée, l'eau usée traitée est remontée en amont de l'usine de traitement de l'eau potable. Je trouve que c'est très intelligent. C'est-à-dire on va retraiter l'eau, au lieu de la rejeter, on va la retraiter et en refaire de l'eau potable. Voilà des sujets qu'il faut développer. Notre unité de réutilisation à Toulouse Métropole, elle a voulu surtout ouvrir des portes. C'est-à-dire, voilà, on a une eau usée traitée d'une qualité exceptionnelle. Julie va vous en parler. Qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'a-t-on le droit d'en faire? Ça fonctionne. Ça fait 3 ans que ça fonctionne. Ça fait 3 ans que nous produisons 60 mètres cubes heure d'eau usée traitée et qu'on a du mal à utiliser puisque les autorisations derrière ne sont pas là. Elles sont demandées. Hein. Je suis sûr qu'on va avoir des réponses rapidement.
Monsieur Jacob,
mais ce que l'on veut surtout, et cette unité, c'est surtout ouvrir des portes et dire voilà, notre unité, elle fonctionne. Voilà la qualité de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut en faire et quelles sont vos autorisations? Et ce qui se passera à Toulouse Métropole, ça évidemment pourra se répandre sur toute la France.
Et merveilleusement, voilà. Donc rayonner, parce que là vous êtes un petit peu en avance. Là aussi, hein, donc un premier laboratoire avec la ferme de la Mirandette. Là aussi, on est sur un laboratoire mais qui est déjà opérationnel avec Toulouse Métropole. Donc, chère Julie Ducrot, responsable service usine et outils donc industriels. Donc tous ces problèmes, vous les connaissez bien. Aujourd'hui, on a donc cette. Tenez, on va aller visiter une petite station d'épuration. On va aller à Ginestou. Allez, on va à Ginestou. C'est pas neutre. Hein. 950 000 équivalents habitants. C'est quand même une station d'épuration. Donc, c'est la plus grosse station du département. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Mettons les mains, on va dire, un petit peu dans cette boue, dans tout ça. On a commencé à voir quelles allaient être les utilisations. Comment ça fonctionne, cette affaire, quoi? Racontez-nous.
Alors, donc, Ginestou, donc, grosse station d'épuration, en effet, hein, une des plus grosses de France. Le contexte, c'est on reçoit donc les eaux usées traitées de plusieurs communes, dont Toulouse, sur l'usine de Ginestou. En moyenne, 120 000, 130 000 mètres cubes jour. Elle est autorisée pour plus. L'eau usée qui est donc traité sur la station d'épuration. Donc on a plusieurs fils de traitement pour atteindre une qualité conforme au niveau de rejet imposé pour pouvoir renvoyer cette eau au milieu récepteur qui est la Garonne. Donc ça, c'est la station d'épuration, on va dire, classique. Le contexte a fait que... un fournisseur local de membranes, hein, donc une entreprise qui est située donc à proximité, qui produit des membranes de filtration des eaux, un golf qui s'est installé à côté de l'usine, un exploitant moteur. Tout ça, ça a donné la construction d'une unité d'affinage du traitement des eaux. C'est-à-dire qu'on dérive une petite partie de l'eau qu'on devrait renvoyer en Garonne. Donc, on est sur de l'ordre du pourcent, hein, de 1%, 2% maximum à terme. On dérive une petite partie de ces eaux usées traitées qu'on va traiter plus, on va dire. Donc, on va ultra-filtrer sur ces fameuses membranes produites made in région toulousaine. Et donc, ces membranes vont permettre d'arrêter tous les pathogènes qu'on peut trouver dans l'eau usée traitée, hein, puisque l'eau usée qu'on rejette en Garonne, c'est pas l'eau potable qu'on boit, hein, donc c'est pas une eau désinfectée, c'est pas une eau parfaitement. Enfin, le but n'est pas d'avoir une eau déminéralisée, propre de tout. On a de toute façon besoin, hein, d'envoyer dans le milieu encore de la vie.
Si on doit avoir la même qualité, on va dire, que souhaite l'ARS pour de l'eau potable, c'est pas la peine. Donc, ça ne marchera pas.
Hein. Sachant que les cours d'eau ont un pouvoir auto-épurateur et il se passe beaucoup de choses aussi.
Ah, ils font le boulot. Donc, quand on laisse faire la nature avec la du débit.
Donc autant utiliser leur capacité et les performances de ces cours d'eau. Donc, cette eau privée des pathogènes et des matières en suspension du fait de la barrière membrane. On la désinfecte puisque c'est la réglementation qu'il demande en vue d'envisager des nouveaux usages. Les usages actuellement autorisés, c'est l'irrigation des espaces verts moyennant des systèmes d'irrigation automatisés. Donc aujourd'hui,
ça a été le golf, mais alors c'est vrai que c'est une eau, on va dire, qui est bien nourrissante. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, pour un golf, je sais, parce que au départ, ils ont un peu cramé leur pelouse parce qu'ils n'avaient pas forcément bien dosé l'affaire. Quoi. On ne l'utilise pas quand même de la même manière qu'une eau classique.
C'est ça, mais au même titre qu'on n'utilise pas une eau potable, comme on n'utilise pas l'eau de la même façon qu'une eau de nappe ou l'eau de la Garonne. C'est une autre ressource en eau. Et donc, cette ressource en eau, elle est pleine de matières dissoutes qui peuvent avoir un intérêt agronomique puisqu'on a surtout de l'azote et du phosphore. Hein. C'est l'azote, on le produit. Hein. Et le phosphore, dans notre métabolisme, on produit un petit peu aussi parce que normalement, les lessives, elles en ont plus. Donc l'eau usée traitée contient des matières dissoutes qui peuvent être intéressantes en agronomie.
Alors espace vert aujourd'hui, donc autorisation espace vert. Bon, le golf, ok, c'est bon, on l'oublie. Mais enfin, on l'oublie pas. On l'oublie pas. Non, on pense qu'à ça même.
On a prévu de refaire des essais pour le golf avant l'été.
Très bien. Non, vous allez y arriver. Non, mais attendez, c'est aussi.
Mais oui.
Faire des erreurs, c'est juste humain. Donc, en France, on a l'impression de pointer les gens. C'est pas bien où vous êtes planté. Non, pas du tout. On s'est planté peut-être une fois, mais pas la deuxième. Donc, ça va être parfait. Qu'est-ce que l'on identifie d'autre? Robert a commencé à le dire. Mais...
La construction de notre station-service des eaux usées traitées que vous voyez sur l'écran.
Oui.
Donc aujourd'hui, Ginestou, c'est quand même une grande plaque tournante des camions d'entretien des routes, des réseaux, puisque quand on a des matières chargées, on vient les dépoter sur une station d'épuration hein, quand on est en milieu à queue. Et donc c'est notamment les camions hydrocureurs donc qui viennent nettoyer des réseaux d'eau pluviale, d'eau usée, des systèmes d'assainissement.
Et avant, ils nettoyaient l'eau potable.
Voilà, ils sont à double cuve, c'est-à-dire qu'ils ont des cuves pour aspirer les eaux sales et une cuve d'eau propre, potable, pour nettoyer. Donc on nettoie aujourd'hui les réseaux d'eau usée à l'eau potable en France. Donc on se dit quand même qu'en plus Ginestou reçoit ses camions, ils viennent tous chez nous pour la plupart, ceux du département, il y a quelques autres stations d'épuration qui les accueillent, mais on a le plus gros flux. Et donc pourquoi pas quand même remplir ces doubles citernes, enfin cette citerne eau propre à l'eau usée traitée. Donc, c'est le dossier d'autorisation qu'on a déposé cet hiver auprès de l'administration donc pour remplir les camions hydrocureurs à l'eau usée traitée. Également, les citernes des espaces verts, puisque, comme je disais, les autorisations aujourd'hui, c'est pour des systèmes irrigués automatiques, des goutte à goutte, des asperseurs, mais on ne peut pas l'utiliser à la main. Or, quand on arrose un arbre du programme 100 000 arbres que porte Toulouse Métropole, un jeune arbre, il faut l'arroser pendant 3 ans, quelques fois par an, pour qu'il parte. Et là, c'est de l'arrosage arrosage simple, hein, sans pression, au tuyau d'arrosage, donc sans contact avec l'eau. Donc on a aussi demandé l'autorisation d'arroser les arbres, les espaces de fleurs avec l'eau usée traitée. Donc ça, c'est le premier usage vraiment opérationnel qu'on porte et on espère avoir l'autorisation avant cet été et avancer pour construire cette unité.
Alors la suite, on va se projeter. Est-ce que nos amis du Stade Toulousain vont marquer davantage de buts en sachant que la pelouse va être traitée avec votre eau, réutilisée. Oui, j'ai dit but. Mais non, je suis pas. Non, mais alors
c'est pas là, local.
Là, je suis pas. Non, mais alors je suis totalement. Alors moi, excusez-moi, c'est le Castres Olympique. Hein, je suis né à côté, donc j'essaie. Ouais, voilà, très bien. Non. Quand même, heureusement qu'il y a eu un sifflet là. Hein, donc, c'est le même pays. Bon, ok. Donc, comme je le disais, j'avais droit à un joker, hein, Christelle. J'ai droit à un joker. Donc, comme je le disais, un essai. C'était ça. Voilà.
Bon, puisqu'on parle d'essai, oui, effectivement, c'est un essai que l'on fait directement sur la station d'épuration. On est en train de faire à l'Ostéa Toulousain des tests sur des pelouses.
Donc vous prenez des bouts
donc
de pelouse.
Et on travaille avec eux pour savoir comment on pourra utiliser l'eau traitée pour faire pousser cette pelouse. Donc, voilà, que donneront ces tests? Je ne sais pas, peut-être qu'on courra plus vite, peut-être qu'effectivement, pour vous rejoindre.
Voilà, donc on a installé plusieurs bacs qu'on peut alimenter à différents types d'eau, l'eau usée traitée, l'eau potable, l'eau du canal latéral, c'est l'actuelle ressource du Stade Toulousain. Et donc l'idée est de contrôler la croissance du gazon du Stade Toulousain avec une petite parcelle dédiée aussi au golf pour essayer, puisque c'est pas les mêmes besoins, et voir en effet si on peut utiliser cette eau usée traitée toute l'année ou seulement une partie de l'année, puisque ces ressources en azote, phosphore sont peut-être pas forcément intéressantes en plein été, ou diluées. Enfin voilà, ça reste à mener. En tout cas, le Stade Toulousain est un partenaire motivé. Ils ont vraiment une envie d'être modèle, moteur sur la transition écologique.
Ils le seront.
Voilà. Et c'est eux qui ont porté aussi notre troisième axe de projet sur Valréu, à savoir l'utilisation de l'eau usée traitée dans des toilettes, puisque donc aujourd'hui, hein, on utilise pour transporter nos joyeusetés, nos excréments et avec
et
de l'eau potable.
C'est ce que je disais tout à l'heure,
et ça, le Stade Toulousain, les jours de match, c'est une consommation d'eau potable ahurissante qui les font bondir en se disant mais est-ce que ça a du sens d'utiliser autant d'eau potable un jour de match alors qu'à côté, on peut avoir d'autres ressources. Et donc, on met en place des pilotes sanitaires alimentés à l'eau usée traitée et à l'eau potable sur Ginestou, où on va faire un certain nombre de mesures pour démontrer qu'il n'y a pas plus de risques. Enfin, le but est de démontrer. Hein, reste
c'est
à faire.
Pas que les résultats de nos 15 bons hommes, évidemment, c'est tous les gens qui viennent acclamer aussi à côté. Si je vous dis métro.
Eh ben on arrive sur le dernier usage. Donc, comme le disait Monsieur Medina, la troisième ligne de métro, les Toulousains en entendent bien parler. En plus de creuser des tunnels dans nos sous-sols, il faut l'entretenir, ce métro. Donc, il a le droit à son centre de maintenance et de pilotage. Donc, c'est là que le métro va être... les rames vont être lavées, entretenues. Et donc, il y a une grosse machine à laver, le métro, qui va s'installer juste en face de l'autre côté de la rue. Là, on voit la station-service, on traverse...
Circuit court.
10 mètres et on est sur le centre de maintenance du métro. Donc, on a toute une réflexion sur l'utilisation de l'eau usée traitée et pour les espaces verts du centre de maintenance, mais pourquoi pas pour la machine à laver le métro ou nettoyer des tunnels. Enfin, ça reste à définir. C'est en réflexion de faisabilité. En tout cas, techniquement, le transport de l'eau n'est pas un sujet puisqu'on est vraiment à côté. Et là, on est vraiment dans le circuit court avec un intérêt qui peut être assez évident.
Rassurons Christelle Carpentier, et elle a bien raison de poser des questions sur la santé avec vous, Dolores Montiel, parce que vous êtes responsable recherche et développement au laboratoire du conseil départemental, donc ici. Donc ça aussi, c'est une originalité donc de ce conseil départemental. Donc Eva, qui signifie très jolie Eva, O, vétérinaire, R, c'est ça, hein? Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et aussi, quels sont les résultats par rapport donc à ces taux de réutilisation?
Merci. Donc, les laboratoires départementaux, c'est une direction du conseil départemental. Et notre travail, c'est la surveillance de la qualité des eaux, tant aux aspects sanitaires qu'environnementaux. Donc, dans le cadre de la mission portée par les départements, nous intervenons dans les réseaux complémentaires départementaux qui suit la qualité des cours d'eau sensibles au niveau du département. Sur tous les territoires. Donc, nous assurons aussi la gestion du réseau des stations d'alerte. Et donc, ça, on assure la qualité des eaux superficielles qui sont à vocation de produire de l'eau potable. Et donc, un partenariat avec tous les acteurs du domaine de l'eau, vétérinaire et air.
Bien sûr.
Nous jouons un rôle clé dans les transferts de l'innovation entre les laboratoires de recherche et nos clients et les collectivités territoriales. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on a participé au projet Valréu, parce que ça met en avant notre expertise et notre capacité d'innovation dans les domaines de la récupération, de la réutilisation de l'eau.
Donc, vous bossez avec Valréu, vous bossez avec Suez aussi, évidemment. Alors, cette eau, qu'est-ce que l'on peut en dire?
En fait, cette eau, on a voulu faire des analyses.
Bah oui, c'est ce qu'on vous demande, c'est votre boulot.
Laboratoire d'analyse. Ouais. Et donc, on a voulu comparer l'eau qui sort de la usine de traitement,
ouais,
qui est ultra-filtrée. On a voulu la comparer à l'eau qui est déjà à l'eau potable, prélevée à Ginestous, et aussi à l'eau du canal latéral et à l'eau de la Garonne, prélevée à proximité, parce que c'est les eaux qu'on utilise pour l'irrigation à l'heure actuelle. Donc, on a voulu rechercher les paramètres chimiques qui sont naturellement dans l'eau, hein, des nitrates, des sulfates, des chlorures. Et on a voulu aussi aller rechercher des substances indésirables comme les métaux dans un premier temps, parce qu'on a plusieurs campagnes d'analyse et on ira plus loin plus tard. Mais pour l'instant, on a regardé les métaux lourds et les substances azotées. Et au niveau microbiologique, on a regardé déjà tous les paramètres qui sont demandés par la réglementation.
Les pathogènes, etc.
Julie, elle a dit, il y a des normes à respecter. Donc, il y a une qualité A, qui est la catégorie la plus exigeante à respecter. Donc,
ça va jusqu'où? Ça va de A à Z ou bien ça s'arrête à E comme pour une maison?
Ça va de A, B, C, D.
D'accord. Okay, 4.
Ça va de A, B, C, D. En Espagne, par exemple, on se contente de la qualité B. Ici, en France, on a besoin d'une qualité A pour irriguer. Et donc, nous, on a voulu aller un peu plus loin. On a analysé aussi d'autres paramètres, d'autres virus et des parasites et d'autres pathogènes qui ne sont pas prévus dans la réglementation.
Résultat des courses.
Donc, les premiers résultats, ils ont montré que l'eau, elle remplit parfaitement les qualités demandées par la réglementation. Mmh. Elle est tout à fait utilisable pour la réutilisation. Mais encore, elle est presque au même point que l'eau potable. En tout cas, elle n'est pas pire que l'eau du canal latéral ou de la Garonne, niveau des paramètres. Et dans tous les cas, elle est absente des pathogènes. Des micro-organismes pathogènes.
Donc vous rassurez, Monsieur Jacob, notre secrétaire général de la préfecture, qui va peut-être pouvoir donner son coup de tampon pour la suite. je vous force pas. Hein, donc vous avez le papier ou on donne. Bon d'accord. non, mais ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait,
oui, oui.
Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle.
Au niveau chimie, sans surprise, elle est chargée. Hein, ça.
Bah, oui.
Au contraire. Donc, il faudrait tenir compte et les charger en nitrate, phosphore, comme Julie l'a dit. Ça, c'est évident. Mais il faudrait tenir compte de ces paramètres parce que c'est une eau qui est amendée. Donc, il faudrait tenir compte de ne pas l'utiliser à certaines époques de l'année ou la diluer ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il faut tenir compte de ces paramètres.
Bien. Un grand merci donc à vous. On aura peut-être un petit temps de questions-réponses aussi. On va aller... Ah, tenez, vers le sud, on va aller à Portet-sur-Garonne. Je vous en prie, monsieur le maire Thierry Ciot, donc avec nous, maire de Portet-sur-Garonne, conseiller départemental, mais là, vraiment en tant que maire. On va parler faire de shopping, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un petit centre commercial chez vous, mais on va s'intéresser effectivement aux eaux pluviales par infiltration et réaménagement d'un quartier. Nous sommes dans un quartier du Sieur Renoir, peintre de son état. Il n'y a pas que Toulouse-Lautrec dans la vie ici. Parfait. Donc, aménagement du quartier Renoir, qu'est-ce que l'on a fait et donc quel est l'état d'esprit? Parce que ça aussi, c'est très innovant.
C'est un sujet souvent qu'on ramasse sous l'appellation eau et urbanisme, eau et aménagement. Et donc là, c'était une expérimentation qui a été faite sur un quartier en fait, où nos concitoyens pouvaient avoir, y compris devant chez eux, les pieds dans l'eau lors de fortes pluies, c'est-à-dire des pluies d'épisodes ventennales. Et donc l'idée, c'était de savoir comment la puissance publique pouvait agir, puisque si ce quartier avait les pieds dans l'eau, et ça veut dire qu'il y a quand même dans ces pavillons qui sont dans le quartier des caves et des garages, donc on a des sous-sols, donc si on a les pieds dans l'eau, voilà, ça dit long pour les sous-sols. Et donc essentiellement, comment pouvons-nous agir, puisque ce quartier, donc, qui était légèrement en contrebas par rapport au réseau tuyau qui va vers Garonne, donc, se trouvait à la fois submergé par les effets de la pluie et par les effets de rejet en fait, du reste du pluvial, donc, qui était en parallèle et qui était censé, au contraire, capter le pluvial collecté sur ce quartier. Donc, on a traité avec, finalement, la prise en compte de la réalité physique de ce quartier. Et on a deux chances. D'une part, c'est qu'on a pas mal d'espaces verts. Et d'autre part, c'est qu'on est suffisamment à distance de la nappe pour avoir un temps d'infiltration en mobilisant justement cette capacité naturelle donc, qui permet d'éviter de polluer effectivement par ce que contiennent les eaux de ruissellement, donc la nappe. Et donc, on a traité ce quartier en le déconnectant du réseau d'eau usée de la ville, en traitant donc des bacs de rétention, des noues, en désimperméabilisant un petit peu plus, on a décrouté, parce qu'il fallait regagner quand même un petit peu sur le goudron, et on a créé donc une capacité de traiter ces 505 mètres cubes en fait, qui s'évacuent en 10 heures. On a donc atteint la capacité de traiter les ruissellements du quartier sur une pluie ventennale, donc en le coupant de tout le réseau, on est sorti du tout tuyau.
Donc ça, c'est assez formidable. On a d'un côté, si vous voulez, la désimperméabilisation, c'est autre chose. Là, on a donc cette infiltration. Et surtout, vous êtes dit, on arrête avec le côté le tout tuyau, c'est-à-dire on va pas de nouveau éventrer pour élargir encore plus et dimensionner donc sur un événement le plus important possible. Enfin, ça ne tient plus ces systèmes-là. Et donc, comme vous aviez cette possibilité, alors c'est pas valable partout parce que vous l'avez très bien dit. Hein, donc, il y a quand même aussi la question de la nappe, la question de la possibilité de l'infiltration. Alors, qu'est-ce que ça donne et par rapport aussi aux habitants qui ne connaissent rien donc, alors, sur ces sujets.
Typiquement, on a pu reproduire, puisque ceci a été livré en 2019, que depuis, mais bon, je ne suis pas prédictologue, mais il n'empêche que depuis, pas d'incident majeur sur ce quartier. Depuis 2019, le quartier voisin a été concerné également par le même procédé. On l'a étudié du côté de la mairie. Et là, on s'aperçoit par contre que pour collecter les eaux usées, on a affaire à d'autres sujets. C'est qu'on a toute une série de contre-pentes par rapport à nos parkings, par rapport aux voiries, etc. Et donc, il faut que là, on retraite de manière plus globale. Mais le résultat est bel et bien, effectivement, que l'on a résolu sur, encore une fois, une pluie ventennale, donc une problématique d'eau de pluie dans un quartier, en sortant du tout tuyau. Et en créant, vous avez l'image, hein, on a choisi les arbres en fleurs parce que c'est quand même un tout petit peu plus joli que,
ouais, c'est le printemps,
que,
en toute façon,
que quand ils sont sans. Mais l'essentiel, c'est qu'on a véritablement aussi des îlots de fraîcheur, puisqu'on parlait aussi de la ville tout à l'heure, hein, qui chauffe terriblement. Et puis des espaces. Alors là, comme nos espaces étaient contraints, on est allé assez profond. Mais imaginez aussi que ces espaces, dans des quartiers où l'espace vert permettrait d'avoir des pentes plus légères, sont des espaces qui peuvent être accessibles et qui pourraient contenir des jeux d'enfants, des espaces de balles, puisqu'effectivement, ce sont des espaces publics, sauf quand l'eau vient les remplir.
Ça, c'est mieux, parce que ça ne se transforme pas en piscine avec les gamins dedans, c'est pas plus mal. Vous n'avez plus de bouche d'égout, là, en fait, maintenant, dans ces coins-là. On voit bien qu'il y a des canalisations, mais ce n'est pas des canalisations, mais des espaces, je ne sais pas comment vous les appelez.
On n'a plus d'avaloir, en fait.
Voilà, pardon.
Voilà, ça, pour récupérer l'eau vers le tuyau. Puisqu'on est déconnecté, encore une fois, du réseau tuyau. Ce que l'on voit, la petite grille que l'on aperçoit sur le bas de la photo,
oui,
c'est en fait un système de collecte depuis la voirie. C'est-à-dire qu'on a créé des gendarmes couchés ou des dodanes à l'envers, des creux dans la voirie. La voirie collecte donc les eaux de pluie, le ruissellement, et ce ruissellement s'évacue donc par ce petit passage vers le bac de rétention qui est l'espace enherbé et arboré.
On salue la marée chaussée parce que dès qu'on parle des gendarmes couchés, oui, on se dit, tiens, c'est quoi comme chose. Et qui font d'ailleurs aussi un boulot formidable, mais ça, c'est encore tout à fait autre chose.
Je les salue également.
Bien sûr, mais ça, sans ironie, parce que c'est un métier qui n'est pas exactement très simple.
Même audio, une mémoire sonore.
Est-ce que vous souhaitez intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit là sur, voyez, donc c'est ça qu'on aime bien aussi, c'est pouvoir brasser donc les différentes expériences. Donc je vous en prie, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus dessus, là on est vraiment sur votre territoire avec, on a eu ce matin évidemment tout à fait enfin, autre chose, mais qui posait le décor. On vous passe le micro avec grand plaisir, notre ami agriculteur.
Rebonjour. J'ai juste une question par rapport à deux questions à deux de vos intervenants. La première, les Coteaux de Gascogne, que j'appellerai toujours les Coteaux de Gascogne, qui sont quand même partie prenante dans les bassines. C'est un petit peu compliqué de les avoir ici, nous parler de l'eau, alors que ce matin, on nous a expliqué que l'eau, c'était une. Que les bassines, c'était un scandale. Deuxième chose, vous avez parlé du traitement de l'eau. Moi, ça me fait toujours peur d'arroser un champ et de le voir griller. Pour les golfs, j'en ai rien à foutre. Par contre, qu'est-ce que vous faites de la boue? Dites-nous ce que vous faites de la boue. Parce que vous avez lavé l'eau, mais le caca, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le caca et qui le réutilise? En principe, c'est les paysans, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques films sur la chambre d'agriculture où on proposait aux paysans de rebalancer la merde dans leur champ. Pour ensuite la remettre dans la flotte, quoi. C'est très bien. Vous faites du très bon travail.
Merci beaucoup. On vous remercie bien. Et... Non, mais c'est des questions tout à fait citoyennes. Donc là, c'est parfait. Bon, une certaine interpellation. Donc, vous avez commencé aussi à avoir une certaine habitude, cher Ludovic Huissier. Donc, à la fois, donc oui, vous essayez. Non, pas de tension. Hein. Ce serait du greenwashing à la Mirandette, ça se saurait. Donc, c'est pas ça du tout. Donc, vous êtes en train de nous dire, peut-être aussi en filigrane, bon, OK, vous êtes gentil. D'un côté, vous fabriquez, votre boulot, c'est d'aménager. Vous nous faites des bassines, on va appeler ça effectivement des zones de rétention, etc. et tout. Et puis, d'autre côté, voilà, vous essayez d'améliorer les pratiques agricoles où là-dessus, vous serez plutôt d'accord. Bon, allez, très vite, qu'est-ce que l'on peut répondre?
Pas 3 heures.
Non, on n'a pas 3 heures. Non.
Non, bon, ce matin, on l'a dit, hein, probablement, il n'y a pas de réponse unique qui va marcher partout. Inversement, il n'y a pas de solution qui marche nulle part. Et il se trouve que dans ce secteur du Marais Poitevin, ça fait maintenant une 20aine d'années que les retenues de substitution sont en service sur la partie nord en Vendée. Il y a des retours d'expérience. Puisqu'on n'a pas 3 heures... juste, je peux dire que voilà, il y a des choses qui sont positives dans ces aménagements et dans la gouvernance qui a été mise en place autour de ces aménagements. Une gouvernance publique, une mutualisation des investissements et du fonctionnement, un travail très précis sur les prélèvements en hiver par rapport au niveau des nappes, un travail très précis sur l'utilisation de l'eau pendant l'été. Donc voilà. On peut voir d'ailleurs, hein, c'est public hein, sur les sites internet de l'État, de l'établissement public du Marais Poitevin, comment ont évolué les niveaux des nappes dans le Marais Poitevin depuis que ces aménagements sont en place. Il y a des choses intéressantes. Il y a aussi des choses intéressantes sur l'évolution des pratiques agricoles dans ce secteur. Ce n'est pas une solution qui va fonctionner partout. Et dans cette région, probablement, c'est pas du tout une bonne idée. Voilà, nous, on est un opérateur, on sait faire ce genre de choses. C'est encore une fois du portage politique. C'est des collectivités qui s'investissent pour trouver des solutions face à ces enjeux de changement climatique. Il y a un panier de solutions qui est disponible. Et il faut tout mettre en œuvre.
Ludovic, vous avez été...
Dans certains cas, les retenues de substitution sont une solution.
Vous avez été très corporate. Je trouve que vous avez été formidable avec, avec votre entreprise. Non, mais voilà, l'exercice, évidemment, il n'est pas facile. Hein. On est sur une corde. Moi, je ne parle pas, parce que j'ai bien étudié ça, donc l'histoire de la gouvernance dans le Marais Poitevin, qui est très différente de la Vendée, où ces histoires donc, sont passées comme une lettre à la poste. Parce qu'il y a eu une concertation citoyenne qui a été totalement différente. Ils ont même davantage, effectivement, de bassines. La façon dont le portage a été fait était quand même un peu compliqué. Je reste calme là-dessus, parce que je vois calme. Non, je suis très calme, mais je ne vais pas plus loin parce que ce n'est pas le cœur, si vous voulez, de notre sujet aujourd'hui. Vous avez posé la question, vous avez évidemment un élément de réponse de toute façon. Les boues, chère Julie, qu'est-ce que je fais? Je suis un gros tas de boues, qu'est-ce que vous faites de moi?
Alors, au début, ça reste quand même de l'eau chargée. Hein. Alors déjà, ouais. Je la concentre. Sur Ginestou, cette boue, elle est digérée. Pour réduire son volume et produire du biogaz qu'on purifie et qu'on injecte dans le réseau de gaz en tant que biométhane. Donc, cette opération de méthanisation nous permet d'en diviser le volume par deux, parce qu'en effet, c'est une charge hein, de gérer toutes ces bouts d'épuration. Et ensuite, sur Ginestou, la station d'épuration est équipée d'incinérateurs. Donc, la boue est principalement incinérée. Et en complément, elle peut aller en site de compostage, donc mélanger à des déchets verts compostés pour être réutilisés en compost, encore une fois réglementé, normé. Voilà ce qu'on lui fait à la boue. Alors après, l'incinérateur, il est contrôlé et il faut imaginer que si on n'avait pas la méthanisation et l'incinérateur, ce serait des camions et des camions de transport de boue pour essayer de les évacuer, de les épandre, de les composter un petit peu partout. Hein. Il y a des collectivités en France qui font des centaines de kilomètres avec leur boue. Donc après, il y a toute une réflexion hein, globale. C'est pas une solution, encore une fois. Hein. C'est des impacts carbone, des coûts économiques, des ACV, des coûts énergétiques. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à regarder.
Des communes de région PACA, donc on voit évidemment leurs déchets donc très très loin et en Espagne. De toute façon, alors le point commun entre l'énergie et le problème des déchets, je vous le dis comme bon voilà, globalement c'est toujours le remplacement soit d'un emmerdement, enfin d'un embêtement par un autre. Après, c'est qu'est-ce que l'on priorise ? Vous n'aurez jamais quelque chose à 100% de possible. Donc on essaye de boucler les cycles. Je dis bien, on tente de boucler les cycles. Ce qui est nouveau dans une société merveilleusement extractiviste où, de toute façon, vous prenez un produit, vous le transformez, vous le consommez, vous le jetez. Bon, maintenant, on a réinventé ce qu'auraient fait marrer mes grands-parents. Donc le terme d'économie circulaire, parfait. On réutilise, on boucle les cycles, c'est ça que ça veut dire. Tant mieux qu'on appelle ça économie circulaire, moi ça ne me dérange pas, du moment qu'on fait les choses. Donc voilà, alors on essaye tout ça. Bah oui, vous en avez un bout en incinération. Maintenant, on va vous parler d'unité de valorisation énergétique, c'est plus joli. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'en fait, on réutilise quand même ça. Avant, on cramait, on allait réchauffer les oiseaux, donc il y a quand même eu effectivement pas mal de progrès. Et depuis l'année 2000, où moi sur France Inter, j'avais sorti donc le merveilleux dossier d'un incinérateur bien pourri qui était à Gilly-sur-Isère, à côté d'Albertville, ça s'est quand même extrêmement calmé. Hein. Donc il y a moins de cochonneries qui sortent, je peux vous l'assurer. Là-dessus, tout le monde était un peu secoué. Il y avait même un coin, si vous voulez, à Gilly-sur-Isère, qu'on appelait la rue du cancer. Parce qu'ils avaient un taux absolument anormal de cancer. Vous imaginez bien, évidemment, qu'un État ne va pas vous dire non, etc. Et tout ça, il faut du temps. On va vous dire que c'est multifactoriel. Bon, donc maintenant, on peut avoir quand même tout à fait confiance dans ce qui se passe. Est-ce que vous avez encore une ou deux autres questions ? Je vous en prie, on vous passe le micro tout de suite, monsieur. Oui, alors vous avez peut-être un mi. Si vous avez... Alors, OK. Une, deux, trois. On y va. On en prend trois. Je ne sais pas que vous avez... Allez-y.
Oui, bonjour. Donc... L'association Au Secours 31, donc nous sommes très préoccupés de la question de la qualité de l'eau. Et donc, on a plusieurs questions qui portent sur la question aujourd'hui des pesticides, des PFAS, etc. Donc, toutes ces pollutions dont on n'a pas trop entendu parler pour l'instant, là, mais j'imagine qu'on a peut-être des réponses. Mais au-delà de ça, puisque la thématique, c'est l'eau et le changement climatique, donc est-ce que... Il y a des études, des analyses qui nous permettent aujourd'hui aussi de savoir où on en est avec l'augmentation des températures et les impacts que ça a sur effectivement les pollutions et la qualité de l'eau en général.
Voilà. Oui, mais ça, on a commencé à y répondre déjà un petit peu ce matin. Donc, OK. Une autre, je vous en prie. Oui, bah, il suffit juste qu'on vous
comprenne. Oui, bonjour.
Pardon.
Une question concernant l'agriculture. Je voudrais savoir, vous parliez d'essayer d'économiser la ressource en eau. Quelle est la réflexion de la Chambre d'agriculture par rapport à l'agroforesterie, au fait de replanter les haies, de faire revenir les arbres. On parlait des arbres en ville, mais également de les faire revenir dans les champs pour profiter de leurs bienfaits. Voilà, quelle est votre réflexion par rapport à ces champs que l'on peut voir qui sont très vastes ? On fait passer de très grosses machines agricoles dessus, mais on a retiré les haies et on sait le temps qu'il faut pour que ça pousse, que ça redonne le positif. Voilà, quelle est votre réflexion là-dessus ? Merci.
Merci à vous, chère madame. Allez, on y va encore. C'est pas moi qui ai le micro.
Oui. Bon.
Attendez. Je sais pas qui a
une... j'ai un micro, moi.
Oui, allez-y, parce que... Où êtes-vous? Vous êtes par là, non? Ça. Pardon, je vous en prie.
Non, juste une question très courte. Vous avez dit que quand vous aviez pendu l'eau sur le gazon pour le...
Du golf, oui.
Du golf, effectivement, il ne fallait pas les pendre comme ça parce que c'était trop concentré et que du coup, bon, ça avait cramé l'herbe. Je voulais savoir quelle était la proportion d'autres eaux, donc nos potables qu'il faut mettre pour pouvoir épandre une partie de vos bouts, de votre eau, pardon.
D'accord. Donc vous voulez la bonne
proportion.
Recette. Vous voulez la bonne recette, d'accord.
Oui.
Compris, parfait.
Oui, moi techniquement aussi, c'était un petit peu dans le même genre de question. Cette ultrafiltration, donc qui filtre l'organisme à 1 micron, disons, est-ce que ça retient pas donc tout ce qui est hormones, antibiotiques, etc. Et c'est concentré. Donc est-ce que ça crée pas une pollution justement?
Bon.
C'était dans le même genre de question.
Ouais.
Et l'autre question à laquelle vous avez partiellement répondu, c'est le bilan économique.
Alors effectivement, j'avais un petit peu en réserve. Enfin, voilà, qui paye quoi? Est-ce que l'affaire est rentable? Mais est-ce que ça doit être rentable aussi? Bon, ça on va pouvoir en parler. De ce côté-là, là, parce que vous avez effectivement, je
pense... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je.
Pardon. D'accord. Ça y est.
Oui. Je trouve que c'est une noble intention et une noble action que vous menez de vouloir faire que la terre soit plus belle, soit plus propre, que la nature soit respectée.
On veut surtout que ce soit habitable pour les humains aussi. Mais
et pour les générations futures,
oui.
Hein, parce qu'on parle des échos anxieux beaucoup pour les nouvelles générations. Moi, là, c'est la question que je me posais était la suivante. Maintenant, on est capable de récupérer des eaux usées et de les filtrer pour les réutiliser à certaines activités. Je voulais savoir tout ce qui est filtré, tout ce qui est ôté pour permettre à cette eau de revenir dans un circuit, on va dire, vertueux. Est-ce que de tout cela, vous arrivez à en retirer une bonne partie de tous ces parties toxiques? Est-ce que vous arrivez à en retirer une bonne partie? Et de ces parties restantes, bon, vous parlez de filtrage, qu'en faites-vous? Et est-ce que ce n'est pas un peu comme les déchets radioactifs qu'on va se retrouver à devoir conserver et à isoler?
Pendant 350 000 ans du côté de Bure, je vois très bien. Bon, ce n'est peut-être pas exactement quand même totalement la même implication, mais parce que voilà, là entre déchets radioactifs et déchets ultimes, où là, on fait un pari sur l'avenir, hein, quand même. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, on creuse un peu comme les chats, si vous voulez. On met nos crottes dessous et puis donc, effectivement, on les enfouit. Non, je plaisante parce qu'il y a de la science derrière, mais c'est quand même un petit peu ça. Hein, donc, ça veut dire d'ailleurs, on ne sait pas. OK. Voilà, je vous en prie. Camarade journaliste. Et puis, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir.
Merci.
Vas-y.
Merci de me donner la parole. Marcel Martin du collectif contre le plan Genesus 2000. Je rebondis sur ce que dit l'intervenant précédent concernant la réutilisation des eaux usées. Nous ne sommes pas contre les essais, puisqu'on parlait de rugby et nous sommes en pleine terre de rugby. Toutefois, avant de les transformer, nous demandons une application rigoureuse de la VAR. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la VAR.
Non,
mais si vous écoutez.
Attendez, la VAR, c'est...
La VAR, c'est les troisièmes arbitres qui sont en haut.
Ah, pardon.
Et qui supplient. Oui,
excusez-moi, je crois que... Non, c'est bon.
Je croyais que c'était un acronyme
que je n'avais pas pigé.
Je vous le fais remarquer amicalement.
Très bien, la VAR. Bon, OK.
Donc, la VAR, représentée par l'ARS, Eau de Toulouse, la Direction départementale des territoires, et donc la préfecture, représentée ici par M. Serge Jacob, et les laboratoires. Et on pose une question, qu'en est-il des micropolluants, des PFAS et autres? Voilà.
Okay.
Merci.
Oh, bah, de toute façon, que ce soit dans le cas de la réutilisation ou du reste, les poissons prennent la pilule, changent de sexe, etc. Non, mais c'est une réalité, on le sait. Hein. Donc aujourd'hui, bon, on va avoir un élément de réponse, mais on n'aura pas une réponse évidemment définitive. Alors, on a plein de choses. On y va. Il y en avait encore une. Ah, oui, ami journaliste quand même.
La Chambre d'agriculture s'inquiète en cas de réutilisation des eaux usées, des risques sanitaires qu'il peut y avoir. Je voulais savoir si elle s'inquiète aussi de la présence d'antibiotiques dans les eaux rejetées par l'agriculture. Et la même question se pose à Eau de Toulouse. Je ne pense pas qu'il y ait un traitement des eaux de Toulouse pour la présence d'antibiotiques, dont un rapport récent vient de dénoncer la gravité pour la santé de tout le monde. Ils estiment aujourd'hui qu'il y a 5000 personnes qui meurent par an à cause de ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Et les scientifiques disent qu'on est obligé de changer tout le temps les antibiotiques parce que nous sommes de plus en plus résistants. Et dans quelques temps, on n'aura plus d'antibiotiques à cause de ce qui se trouve dans l'eau qu'on boit. Donc est-ce que la Chambre d'agriculture et de Toulouse, comme certaines villes l'ont fait en France, mettent des filtres pour récupérer les antibiotiques qu'on boit tous les jours dans notre eau?
Alors on commence à être à bloc, effectivement, en France, sur les antibiotiques. Entre autres, et pas seulement, les quantités phénoménales qu'on a distribuées donc dans les différents élevages aussi pour des questions de croissance et aussi des questions sanitaires, mais pas que, parce qu'on en prend aussi à titre personnel. C'est un vrai sujet aujourd'hui. L'amoxicilline et tous les autres, si vous voulez, on arrive au taquet de nos antibiotiques. On n'a pas de recherche supplémentaire, on ne va pas se trouver la super molécule qui va effectivement y arriver. Allez, on y va sur différentes choses. On peut y aller. La proportion, qu'est-ce qu'on fait? Notre recette entre les eaux réutilisées, comment on peut l'utiliser pour ne pas cramer son terrain de golf, son jardin, etc.
Alors, si on revient sur l'historique de l'événement golf, il est lié à un facteur, à plusieurs facteurs. Donc, forcément, la météo de cet été-là. Mais avant tout, ce que M. Medina a voulu dire tout à l'heure, c'est que le golf n'a pas modifié son programme d'amendement et sa gestion d'apport complémentaire alors qu'on a modifié le type d'eau utilisée. Donc les greens ils n'ont pas été cramés, ils ont été un champignon s'est développé sur les greens. Voilà, un green, ça nécessite un entretien, ça représente un coût, donc c'était pas possible de perdre les greens. Mais c'est un développement de micro-organismes du fait d'une surconcentration de différents produits parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation aux apports géré par le greenkeeper du golf alors qu'on a tourné les vannes et qu'on a remplacé le type d'eau. Donc c'est un événement avec le recul, il y a eu des erreurs, faute de dialogue, faute de réflexion, peut-être un peu de précipitation. Là, l'idée de faire des essais est justement de mieux appréhender cette problématique. Encore une fois, c'est pas l'eau usée traitée toute seule qui a cramé du gazon.
Oui, c'est l'utilisation, la manière dont les choses se sont opérées. D'accord,
et ce n'est pas cramé, c'est un champignon qui s'est développé.
Oui, c'est moi qui ai été un peu rapide en disant ça. L'augmentation de la température, là aussi extrêmement important, on l'a évoqué ce matin, c'est une inquiétude. Hein. L'augmentation de la température de l'eau, donc est-ce que là-dessus quelqu'un peut répondre? C'était une des questions au-delà des PFAS, au-delà des pesticides, donc de la qualité de l'eau, donc qui est aussi le travail de Eau 31. Il y avait aussi donc l'augmentation de la température. Est-ce que dessus vous avez, je sais pas, quelqu'un veut prendre le bébé sur le Robert?
Oui, alors il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la température de l'eau, effectivement, c'est un problème que nous avons à gérer tous les étés, puisque cette année, au-dessus de 27 degrés, nous avons besoin d'autorisation pour continuer à distribuer l'eau. C'est arrivé une fois ou deux qu'on est monté à 28, je crois. Et par contre, l'eau qui a été distribuée, c'est-à-dire qu'on est obligé à ce moment-là de rajouter un peu plus de chlore ou de rajouter un peu plus de traitement, mais l'eau qui est distribuée est potable et acceptée par l'ARS, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau que nous prélevons aujourd'hui dans la Garonne n'est pas du tout celle que nous prélevions il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et ce n'est pas la même que celle que nous prélèverons dans 10 ans ou dans 20 ans. Il y a effectivement des polluants. D'abord, pourquoi? Parce que il y a des scientifiques qui font des recherches permanentes sur le cancer, sur toutes les maladies, et qui trouvent dans l'eau aujourd'hui des choses qu'ils ne trouvaient pas il y a 10 ans.
Plus on donc, recherche, on plus vous allez trouver de toute façon de
exactement.
De nouveaux
médicaments. Et donc les conditions effectivement de distribution de cette eau sont de plus en plus difficiles et les normes qui nous sont imposées sont de plus en plus importantes. Et je crois qu'il y a une question qui était sur le prix de l'eau. Ben, il faut savoir que la règle, c'est que l'eau paye l'eau. Mais que évidemment, plus il y aura de traitement dans l'eau, plus on sera obligé d'augmenter l'eau. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même si à Toulouse Métropole, l'eau est une des moins chères de France, évidemment qu'elle augmentera. Évidemment. Parce que nous mettons en place des usines. Là, on met en place sur chaque usine de traitement une usine qui s'appelle Qualité Plus pour aller encore plus loin et pour essayer d'aller en avant de ce que va nous imposer l'Europe. Donc oui, effectivement, l'eau, aujourd'hui on trouve des PFAS dans l'eau, alors que les PFAS, ça fait des années et des années. Je ne sais pas si vous avez vu le film Darkwater, voilà, où on en parle, et ce n'est pas un film jeune, c'est un film quand même assez...
Donc
il y avait déjà les PFAS, mais les PFAS, ils nous sont imposés maintenant, on est obligé de les chercher. On n'en a pas trouvé dans Toulouse Métropole. Les chlorothalonils aussi, on parle de ces chlorothalonils qui sont des dérivés des pesticides. Ça, c'est des choses peut-être qu'on ne nous demandait pas d'étudier ou de traiter il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution sur cette eau. Et pour garantir cette qualité, bien évidemment, nous devrons payer l'eau plus cher. Et ça, je crois que c'est une chose importante et qu'il faut bien chacun admettre.
On a merveilleusement chimisé notre société, mais ce qui est génial avec une entreprise chimique... Attention, je ne veux pas diaboliser, parce que sans eux, je ne serais peut-être pas vivant non plus. Donc, moi, je ne suis pas sur ces vilains à la chimie. Mais globalement, ces gens-là fabriquent nos maladies et nous les soignent. Bon, je l'ai fait un peu. C'est un peu facile. C'est pas complètement faux, ce que je dis. Loin de là, c'est les mêmes. C'est les mêmes grands groupes. J'attaque pas du tout l'agriculture derrière qui l'utilise, etc. Et tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quand même la réalité. Hein, c'est quand même les mêmes grands groupes. Donc voilà, c'est vrai qu'on on est comme on dit sur un serpent de mer ou un serpent d'eau douce, peu importe. C'est ça. Aujourd'hui. Moi, j'en vois pas la fin. Hein. Soyons très clairs, j'en vois pas la fin. Plus vous plongez le thermomètre, plus vous allez trouver effectivement des choses. Donc, ça va être ça. Alors après, on a une ADN qui est complètement différente. On va résister comme on peut les uns et les autres. Christelle, prenez le micro, s'il vous plaît. Donc, alors, agroforesterie, les haies, antibiotiques. Antibiotiques, vous y avez déjà un petit peu répondu, effectivement, sur les différents produits. Vous émettiez évidemment des réserves de réutilisation de l'eau, etc. Mais allons-y sur l'agroforesterie.
Si je peux, je voudrais quand même préciser que le chlorothalonil est interdit en agriculture depuis 15 ans.
Oui.
Et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, c'est un adjuvant des peintures anti-moisissure. Donc, c'est pour ça que M. Medina m'a fait la petite pique, parce qu'au dernier comité métropolitain, je lui ai dit qu'on ne pouvait plus appeler cette molécule pesticide, parce qu'aujourd'hui, c'est un adjuvant. D'accord. Et ça n'appartient plus à l'agriculture. Voilà. Donc, je souhaite que
on ait tous ce niveau
d'information.
Agroforesterie.
L'agroforesterie. Alors, concernant l'agroforesterie, nous, on n'est pas forcément contre. On n'est pas forcément pour. Comme ça a été dit, toutes les solutions ne s'adaptent pas à tous les territoires. Il y a des territoires où ça s'y prête très bien. Et il y a d'autres endroits, notamment une ferme que j'ai visitée sur Beaumont-sur-Lèze, où le problème, c'est que l'hiver, ça garde beaucoup l'eau. Et l'été, il y a une forte concurrence entre l'arbre et la culture qui est dessous. Bon, c'est des choses qui ont été remarquées. Donc, l'arbre a un avantage, mais c'est toujours pareil. Hein. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut jongler entre les avantages et les inconvénients de tous les systèmes.
Est-ce que vous êtes pour replanter ? Parce que là, on voit bien là, comment vous naviguez là-dessus. Mais sur les haies, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait 22 500 km de haies qui sont arrachées ? Il n'y a aucune loi. Je ne crois pas me tromper pour dire vous pouvez. Alors, si, il y a des. Non, je suis d'accord. Non.
Alors.
Je le retire. Mais il n'y a pas forcément les vérifications qui vont avec. Et alors. Ça, je le maintiens. On a un chiffre. Alors, ministère de l'Agriculture, hein. Fesneau, je remettais un prix d'agroforesterie justement et je faisais valider. Est-ce que c'est ça? Il me dit oui, vous avez raison. Bon, 22 500 km de haies malheureusement arrachées, 4 500, même s'il y a un plan gouvernemental qui est plus ambitieux, qui voudrait en replanter quand même à peu près 6 000. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi?
Alors, nous, chez nous, en Haute-Garonne, quand même, ça fait des années que le conseil départemental participe activement au financement de haies, donc il faut le dire. Déjà, c'est la première chose importante. C'est vrai qu'il y a des haies qui ont disparu de certains paysages, mais moi, enfin, je vois chez moi qu'ils s'en replantent aussi beaucoup. Et là où ça me dérange, c'est qu'en fait, on veut sacraliser la haie vis-à-vis du monde agricole. Mais moi, je vois autour de chez moi, quand il y a des villas qui se construisent, la première chose qu'ils font, ils abattent la haie et ils montent un magnifique mur. Donc, je veux dire, à un moment donné, soit la haie doit être sacralisée et elle l'est pour tout le monde, mais elle ne peut pas l'être uniquement pour l'agriculture, puisque nous avons besoin de biodiversité dans les milieux agricoles, mais nous avons également besoin de biodiversité dans les villes. Je pense que la nature doit être accessible à tout le monde tous les jours, en permanence, et on ne va pas faire des zones aseptisées et d'autres zones où on doit tout accepter et tout tolérer. Concernant du coup le problème du matériel agricole qui grandit, alors je sais pas, mais enfin, j'espère que tout le monde s'est rendu compte qu'on avait des fenêtres météo de plus en plus compliquées aujourd'hui, que par conséquent, si on a du matériel plus large, ça nous permet de travailler plus vite et donc de rentrer dans ces fenêtres météo. Et sachant qu'en plus, ça fait des économies de carburant qui ne sont pas substantielles et donc qui participent à la réduction du CO2 dans l'atmosphère, puisque du coup, on brûle moins de gasoil. Alors, ça peut ne pas plaire, mais il n'empêche que c'est une réalité.
Vous la laissez...
voilà. Moi, je suis désolée, mais j'ai vu le changement chez moi en passant de 4 mètres à 6 mètres. Et je peux vous garantir que, un, les chantiers se font plus vite, et deux, la consommation de carburant a peut-être baissé de 10 ou 15%. Mais bon... Après, bon. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est une réalité quand même.
Non, mais ça, on peut vous croire. C'est vrai que tout dépend ce que... Non, mais je vois très bien moi, les réactions de la salle. Donc là-dessus, Christelle Carpentier défend son métier, défend aussi une profession. Après, d'accord, pas d'accord, ça c'est tout à fait autre chose. Sur les haies, moi, j'ai entendu effectivement les réactions, mais voilà votre position, donc on l'entend. Sur l'ultrafiltration, je ne sais pas si...
Sur les antibiotiques d'élevage.
Oui, pardon, antibiotiques d'élevage, oui.
Je tiens aussi à rappeler qu'il y a quelques années, on a imposé à bon nombre d'agriculteurs de mettre en place des fosses de récupération de l'ensemble des lisiers. Donc, quand ils récupèrent les lisiers, ils récupèrent également les antibiotiques, puisque vous savez bien que ça sort par les excréments.
Ça sort de côté, oui,
voilà. Y en a beaucoup sur certains territoires. Je pense notamment à la vallée de l'Alaise, qui, du coup, ont cessé leur activité d'élevage. Du coup, ça fait de la disparition de haies, ça fait de la disparition de prairies, ça fait de l'augmentation de grandes cultures et ça a créé aussi de l'augmentation d'érosion des sols, etc., etc., d'autres problématiques. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut réfléchir à trouver un équilibre entre tout ça et toutes les activités. Il n'y a pas le céréalier, c'est le méchant, l'éleveur, c'est le bon, ou inversement, en fonction de quand est-ce que ça nous arrange. Je sais bien qu'il y a des gens qui prônent l'alimentation toute végétale, mais on a vu aussi que le tout végétal, ça peut entraîner des carences alimentaires importantes. Donc, tout ça, c'est quand même à regarder également. Tout est question d'équilibre.
Tous ceux qui manifestent là, vous manquez tous de vitamine B12, hein, on est d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est un... ce que je veux dire, je n'essaie pas de faire une concorde, c'est pas ça le problème. Ça a le mérite de poser, effectivement, aujourd'hui, quand même quelques questions. On sait que ce système dément dans lequel on est ne va pas tenir. Bon, ça là-dessus, on est à peu près d'accord. C'est pour ça qu'un conseil départemental essaie de se mettre en ordre de marche en essayant de trouver les solutions en fonction de ses possibilités. Que le monde agricole comprend aussi très bien. Moi, je discute avec des gens, effectivement, de toutes les sensibilités, parce que c'est parce que je fais CO2 mon amour que j'ai besoin de savoir comment vivent les autres et comment pensent les autres. Bon. C'est très dur, cette bascule, elle est très très dure. Est-ce qu'on va les accompagner véritablement? Derrière, évidemment, derrière tout ça, si on va chercher un peu plus loin, vous avez de l'agro-industrie, vous avez un monde coopératif, qui maintenant sont des grosses machines financières, alors que le mot de coopération, c'est beau. Quand on voit effectivement les tensions qu'il y a avec le président de la FNSEA, on peut se poser des questions. Donc là n'est pas le débat, mais on essaye tout ça. Donc c'est pour ça, Christelle, que vous avez, on voulait vous donner la parole là-dessus. Et puis, puis après, bah, vous en faites ce que vous voulez. Ce que je vous propose, que là, est-ce que sur les ultrafiltration, médicaments, tu...
Alors, très rapidement, est intégré dans le projet Valréu une partie analytique PFAS et microplastique amont, aval, ultrafiltration. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments. Donc, ça fait partie du volet recherche du projet qu'on va mener. C'est probablement, il y a forcément des microplastiques et des traces de PFAS dans l'eau usée traitée. La microfiltration, on l'arrête ou pas, ça reste à confirmer. Mais ça reste de toute façon des problèmes à la ressource, hein, en amont, hein, toujours. Mais une station d'épuration aujourd'hui en France n'est pas réglementée par rapport, de toute façon, à toutes les problématiques de micropolluants. Donc, quelqu'un parlait de plusieurs stations d'épuration en France qui traitent les micropolluants, à part Annemasse, parce qu'ils ont un accord avec la Suisse, et puis Nice, Antiopolis, qui ont porté ce projet micropolluant il y a longtemps. Il n'y a pas d'autres stations d'épuration qui traitent les micropolluants. C'est la Suisse, pour le moment, qu'on souhaite suivre. L'Europe est en train de légiférer sur la nouvelle directive aux résidus aires urbaines. Donc, c'est ça qui va être intéressant dans l'avenir sur ces sujets-là. Le trilogue s'est mis d'accord fin janvier. La copie devrait sortir avant les élections européennes. Donc, les stations d'épuration telles que Ginestou, dans l'avenir, devront être traiter les micropolluants. Aujourd'hui, on porte un projet. Cette problématique est identifiée. Ginestou, dans quelques heures, enfin, voilà, le temps de se mettre en route, de porter les investissements, de laisser la réglementation évoluer. Voilà, c'est dans le scope de mettre en place un traitement des micropolluants sur les grosses stations d'épuration. Après, les enjeux, ils sont énormes et le parc de stations d'épuration en France, il est colossal.
Bien sûr, oui, c'est ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les gens passent 4 à 5 heures et les jeunes aussi par jour devant un écran. Ils vont mourir d'autre chose que tout ça, donc ça va être... Bon, un gros merci. Merci donc à vous toutes et à vous tous. On va passer donc à notre dernière table. Donc, je vous en prie.
Même audio, une mémoire sonore.